Le show du matin. Kick 97, Saguenay.
C'est quand même un grand jour aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, la vaccination planétaire commence en Grande-Bretagne aujourd'hui. Ça a débuté avec une patiente de 91 ans, suivie d'un monsieur de 81 ans. Donc, on y va évidemment par tranche d'âge et de population vulnérable. Au Québec, ça a été annoncé hier. La vaccination contre la COVID-19 commence la semaine prochaine dans deux CHSLD, un à Montréal, un à Québec. Et on devrait être en mesure de vacciner quand même quelques milliers de personnes avant le 1er janvier. J'ai toujours l'impression que les chiffres qu'on nous donne sur la vaccination depuis le début au Canada, de la part de Justin Trudeau, sont très, 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 très conservateurs. Je pense qu'il aime mieux se placer dans une position où il annoncera des bonnes nouvelles plutôt que de dire et de tenter d'expliquer pourquoi il n'a pas livré ce qu'il avait dit. Un peu ce qu'a eu comme problème, évidemment, notre premier ministre avec ses congés des fêtes et ses congés de Noël. Là, il y a des vaccins qui arrivent au fil d'arrivée. On en a un qui est Pfizer, qui va être approuvé dans les prochains jours. Les autres, c'est qui? C'est quoi les étapes qui restent? Comment ça va fonctionner pour la vaccination? On va en parler avec Alain Lamarre, qui est expert en immunologie et virologie à l'Institut national de recherche scientifique. Monsieur Lamarre, bon matin.
Oui, bonjour.
Tout d'abord, c'est des grandes nouvelles planétaires et d'avoir développé des vaccins aussi rapidement, je pense pas que personne aurait pu dire ça puis mettre sa main au feu en disant, là, gars, c'est clair que dans même pas un an, on a des vaccins.
Ah non, effectivement, c'est historique. Là, au début de la pandémie, on savait pas du tout là, quel type de réponse immunitaire ça nous prenait là, pour être protégé. On savait pas si ce virus-là, si on pouvait le rattraper plusieurs fois, par exemple, si on développait naturellement une réponse immunitaire protectrice. Là, on en sait un peu plus, là, mais il y a encore quand même des grosses questions. Mais on voit maintenant que les vaccins semblent fonctionner assez bien, même très bien. Même. Donc, la réponse immunitaire est adéquate. Donc, c'est des bonnes nouvelles, effectivement.
Pour ce qui est de nous au Canada, au Québec plus particulièrement, là, si on comprend bien, le premier qui sera approuvé, c'est probablement Pfizer. Comment ça fonctionne? Pourquoi ce n'est pas encore approuvé alors que d'autres pays l'approuvent?
Ben, chaque pays a sa propre structure réglementaire. Là. Ici, c'est Santé Canada. Aux États-Unis, c'est la FDA. En Europe, ils ont leur propre comité. L'Angleterre a son comité indépendant. Donc, c'est tous des comités qui sont indépendants. Bien sûr, là, on est dans une situation de pandémie. Donc, tout se fait plus vite aussi au niveau des agences réglementaires. Ils peuvent se fier un peu à ce qui se fait dans d'autres pays. Là, au Canada, on a vu là dans l'arrêté ministériel que une approbation dans un autre pays qui est digne de confiance là, peut faire accélérer le processus ici au Canada. Donc tout ça là rentre en ligne de compte là. Puis chacun a ses propres comités, ses d'experts. Donc c'est pas tout, ça va pas tout se faire au même moment, mais c'est pas mal tout à peu près en même temps. Là.
Parlons chiffres un peu. Là, on parle de 28 000 personnes d'ici la fin de l'année. Après ça, 700 000 personnes d'ici le mois de mars. 75 % des gens d'ici le mois de septembre. À quel moment on voit une différence dans le bilan qui sera publié quotidiennement? À 28 000, c'est-tu suffisant pour qu'on voit une différence? À 700 000... C'est-tu suffisant pour qu'on... Puis à quel moment on peut se dire, ben là, regarde, là, il va y avoir un impact?
C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui connaisse la réponse à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que probablement, là, dans les... je pense qu'on va conserver nos masques là, pour un petit bout de temps encore. Là. Je dirais probablement jusqu'à la fin du printemps, là, il va rester encore des mesures là, sanitaires, là, distanciation, masque, lavage des mains, là, tout ça, ça va perdurer là pour tout le printemps, possiblement qu'à l'été, là, quand on va être rendu à vacciner la grande partie de la population et que l'été va arriver, le beau temps, les gens vont sortir, là, il y a des bonnes chances que les consignes sanitaires soient un petit peu affaiblie.
On peut-tu penser que certaines mesures pourraient commencer à être délestées un petit peu plus tôt? Pas évidemment le port du masque, le lavage des mains. Je pense que ça on en a encore pour un certain temps. Mais à partir du moment où on vaccine tous les CHSLD, les RPA, les gens du milieu de la santé, est-ce qu'on peut penser que la pression en diminuant, compte tenu du fait que les gens généralement en bonne santé risquent beaucoup moins de complications, qu'on pourra retrouver certaines activités?
C'est possible. C'est possible, effectivement. Ça va être des décisions gouvernementales là, et économiques. Est-ce qu'on peut réouvrir certains pans d'économie? Quoique là, en ce moment, à part les restaurants puis les bars, là, pas mal tout est ouvert. Là. Je parle des entreprises privées. Là. Oui, peut-être que c'est envisageable là, de pouvoir relaxer un petit peu les restrictions au niveau des restaurants, des bars, tout ça. Mais vraiment, c'est le temps qui va nous le dire. Là, si jamais on commence à avoir là, moins d'hospitalisations, moins de gens aux soins intensifs, moins de décès, c'est effectivement quelque chose que le gouvernement pourrait faire.
Ce qui fait craindre beaucoup les autorités maintenant, c'est les mouvements anti-vaccins. Là. Ceux-là, d'ailleurs, il y a les purs et durs, mais il y a des gens aussi qui ont des craintes sur la vitesse à laquelle a été développé le vaccin. Quels sont les véritables dangers, autres que ça fonctionne moins bien, que ça peut fonctionner? T'sais, je veux dire, quelles sont les chances, par exemple, qu'un troisième pied me pousse?
Les effets secondaires, il y en a pour tous les vaccins. C'est très rare. Mais faut s'attendre à ce qu'il y en ait. On sait qu'il y en a des effets secondaires qui sont bénins là, avec les deux vaccins, le Pfizer et Moderna. On s'attend à ça là, chez 10 à 15 % des individus, mais on parle là de trucs qui durent quelques heures à quelques jours. Là. Fièvre, douleur musculaire, maux de tête, étourdissement, frissons. Il peut y avoir ce type d'effet secondaire-là. Mais jusqu'à présent, on a vacciné à peu près 40 000 personnes. Donc, c'est pas assez pour voir des effets secondaires plus graves là, qui arrivent là, pour les vaccins en général à un cas sur 100 000, à un cas sur 1 million. Là. Donc, les chances de ça sont très, très faibles, mais ça peut arriver. Et les chances sont bonnes là, qu'il y en ait aussi là, pour ces nouveaux types de vaccins-là. Mais là, on n'a pas encore la durée là, de 2 ans, là, parce que ces études cliniques-là devraient durer 2 ans en totalité. Là, ça fait juste 3-4 mois. Là. Donc, on n'a pas le long terme non plus. Donc,
Mais c'est quoi les risques, mettons, que je veux prendre une décision éclairée? Là, le cas sur 1 million, c'est quoi qu'il y a? C'est quoi qui lui arrive?
Il y a des cas très rares de ce qu'on appelle la paralysie de Bell, là, qui est une paralysie qui, dans 80% des cas, se résorbe complètement. Là, mais il peut y avoir comme la moitié du visage paralysé. Là, c'est classiquement la paralysie de Bell. Il peut y avoir le syndrome de Guillain-Barré, aussi un trouble neurologique là, grave, mais qui est ça. C'est des cas, un cas sur 1 million, un cas sur 500 000. Puis c'est même pas toujours garanti là, que c'est le vaccin qui a causé ça, parce que on n'a pas de groupe contrôle là, pour savoir si c'est effectivement ça ou ça peut être d'autres choses là, qui causent ça. Une infection, un autre type d'infection virale, par exemple, peut causer ce genre d'effet-là aussi.
Ouais. Ben, on disait, je ne sais pas si c'est vous que j'avais lu à ce sujet-là, mais que le virus de la grippe, en tant que tel, a plus de chances de vous causer un Guillain-Barré que le vaccin contre la grippe.
Le virus, oui, effectivement. Oui. Puis c'est le cas de beaucoup d'infections virales. C'est une inflammation au niveau des nerfs. Hein? Donc, un virus, s'il se réplique là, dans votre système nerveux, vous allez avoir une inflammation à cet endroit-là, puis ça peut compresser vos nerfs et causer une paralysie. Donc, effectivement, n'importe quelle infection virale là, qui a le potentiel d'être neurotropique là, peut causer ce type d'événement-là. Et c'est effectivement beaucoup plus fréquent que que d'une conséquence de la vaccination.
Ouais. Peut-être, avant de se laisser, là, on parle de chiffres très conservateurs de 28 000 personnes. Moderna, donc, va arriver aussi probablement début janvier. Mais là, il y a d'autres vaccins, de ce que je comprends, qui s'en viennent, qui sont aussi en attente d'approbation. Est-ce qu'on pourrait éventuellement nous annoncer un paquet de bonnes nouvelles après le temps des fêtes?
Oui, c'est possible. Là. Il y a plusieurs, il y a cinq ou six autres candidats là, qui sont en évaluation clinique de phase 3. Donc, c'est effectivement possible. On sait que celui d'AstraZeneca, bon, on a eu des résultats. Ils doivent un peu peaufiner leurs études là, pour avoir des résultats plus fiables. Mais il y a des évidences que ça fonctionne aussi, ce type de vaccin-là. Donc, d'adénovirus recombinant. Donc, ça, il y en a plusieurs qui sont en développement, pas seulement celui d'AstraZeneca, mais il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait d'autres, qu'il y en ait d'autres, et puis on va en avoir besoin de d'autres aussi, parce que Pfizer et Moderna, les deux ensemble, là, ça va pas... Ils n'ont pas la capacité de produire assez de doses là, pour vacciner la planète au complet. Là. On parle de 15-16 milliards de doses. Là. C'est pas une possibilité pour l'année prochaine.
Mm-hmm. Parce que celui de Johnson & Johnson également, dont on entend beaucoup moins parler, mais qui a déposé sa demande d'approbation à Santé Canada déjà. Pourtant, on n'a pas vu de résultats publiés. Mais on peut penser qu'eux autres aussi, tranquillement, là, d'ici quoi, le mois de février, devraient éventuellement publier quelque chose.
Oui, effectivement, basé un peu sur la même technologie qu'AstraZeneca. Une dose, eux, en plus. Donc ça, c'est un avantage certain là, comparativement aux vaccins dont on requiert deux doses. Là. Donc oui, ça devrait s'en venir aussi. C'est le même type d'évaluation qu'on appelle une évaluation en continu. Là. Donc Santé Canada reçoit déjà des résultats là, des premières phases et des effets secondaires, par exemple. Ils peuvent déjà avoir accès à ces données-là, même si l'étude de phase 3 est toujours en cours et elle n'est pas terminée.
Intéressant. Dr. Lamar, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Alain Lamar, expert en immunologie, virologie à l'Institut national de la recherche scientifique. C'est intéressant ce qui s'en vient avec les vaccins. Puis on peut penser que l'été va être là. Tu sais, on a vu hier des shows qui se sont annoncés, Cheaga, entre autres, qui a annoncé un événement des shows avec quand même des gros noms.